Bonjour. Est-ce que vous avez été admiré des feux d'artifice? Non? Pourtant, c'était pour la fête nationale, c'est quelque chose la fête nationale. Le 14 juillet. Qu'est-ce que c'est le 14 juillet? La prise de la Bastille. C'était quoi la Bastille? Une prison. En fait, c'était le symbole de l'arbitraire du pouvoir qui pouvait vous enfermer sans aucun procès. Cette date nous rappelle que le peuple de France s'est libéré du pouvoir absolu des rois. Et cette révolution nous a donné notre devise « liberté, égalité, fraternité ». Et je ne sais pas si vous y avez réfléchi, mais égalité, liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs tout à fait chrétiennes. C'est ce que Christ nous enseigne. Il nous a rendus libres, nous a rendus égaux devant lui et fait de nous des frères et des sœurs. Et c'est curieux que cette révolution, qui était tout à fait laïque et anticléricale, ait adopté finalement des valeurs chrétiennes. Ce matin, je voulais vous parler seulement de la liberté. La parole de Dieu est pleine de références à la liberté et aussi à son contraire, l'esclavage. On est soit libre, soit esclave, mais pas les deux en même temps. Or, quelques versets, 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de l'esclavage. Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Ça parle de Christ, bien sûr, pas de moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Puis enfin, Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Comment on fait pour avancer là? Ah, c'est trop tôt. Hop. En mourant crucifié, Jésus, le Fils de Dieu, s'offrait en sacrifice pour notre péché. En ressuscitant le troisième jour, il nous redonnait espoir pour retrouver la liberté de choix, choix entre le bien et le mal, entre la vie et la mort. Christ est ressuscité pour notre liberté. Des hommes sont morts pour la liberté. C'est l'une des plus nobles aspirations humaines. Et ce n'est pas seulement la première devise de notre devise française, c'est aussi le premier article de la Déclaration des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. On sent quand même que la Déclaration des droits de l'homme, ça vient de chez nous. Hein. Pour Nelson Mandela et l'égalité des Noirs et des Blancs en Afrique du Sud, Gandhi et l'indépendance de l'Inde, Martin Luther King et la fin de la ségrégation aux États-Unis, les Iroquois, et l'indépendance face aux colonisateurs européens, les patriotes et la liberté politique, les Ukrainiens en ce moment, face à l'invasion russe, toutes ces luttes sont à la fois uniques et semblables. Les événements auxquels ils font face sont divers, pourtant qu'ils poursuivent toutes le même et unique but, la liberté. Tant de souffrances endurées et acceptées pour la liberté. Mais au juste, c'est quoi la liberté ? Or, la liberté, c'est la faculté d'agir selon sa volonté en fonction des moyens dont on dispose, sans être entravé par le pouvoir d'autrui. Elle est la capacité de se déterminer soi-même dans ses choix. C'est l'absence de soumission, de servitude, de contrainte. C'est l'autonomie, la faculté d'agir de son plein gré. Elle n'est limitée que par la liberté d'autrui. Selon l'adage bien connu, la liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. Or, cette notion de liberté est à la fois conçue comme une valeur abstraite et normative de l'action humaine et comme une réalité concrète et vécue. Pour les philosophes, la liberté renvoie au libre arbitre des gens. Être libre signifie alors agir en conscience, en ayant conscience de ce que l'on fait, après avoir réfléchi aux diverses possibilités. Plus précisément, elle consiste à agir de façon conforme à la raison. Il faut faire des choix et assumer la responsabilité et la décision de la décision ainsi que ses conséquences. En droit, on s'interroge moins sur la liberté en tant que telle que sur l'existence de liberté au pluriel. Voilà. Liberté de conscience, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de la presse, liberté de circulation, liberté sexuelle et bien d'autres. Il n'y a point de mot ayant reçu plus de signification que celui de liberté. Montesquieu, l'esprit des lois. Que nous dit la Bible sur cette notion de liberté ? Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et un peu plus loin dans le chapitre, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a fiés à son image, donc d'évidence libre, libre de leur choix, mais libre en ayant conscience des conséquences. C'est tout le sens de Genèse 2. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quel était cet arbre ? Était-il seulement un arbre ou bien est-ce qu'une image ? Je ne me prononce pas là-dessus. Toujours est-il que l'homme avait le choix en connaissant les conséquences de son choix. Et il a choisi, librement choisi, bien qu'influencé un peu par Satan. Et depuis cette époque, l'homme et la femme ont perdu cette liberté, la liberté de leur choix, dans leur comportement face au mal, au péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. L'homme n'est pas ou n'est plus bon par nature, contrairement à ce que prétendait Rousseau. Et ce n'est pas la société qu'il corrompt, c'est lui qui corrompt la société. Et cela se voit bien. Ce même Rousseau disait, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa qualité d'homme. C'est marrant, j'en suis, je m'en avance. C'est à cela, à cette liberté, que Adam a renoncé. Il a renoncé aussi à sa qualité d'homme. En tant qu'image de Dieu. Et Dieu a donné la loi par Moïse pour mettre en évidence le péché et son esclavage. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Jésus, quand il cheminait parmi les hommes sur cette terre, s'est comporté en homme libre et il a proposé aux hommes la liberté. On lit dans Jean 8, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Et Jésus leur réplique, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Vous avez remarqué, les Juifs ont dit, « Nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Ils ont oublié l'Égypte, Babylone, et pas mal d'autres événements de leur histoire. En pleine occupation romaine, à une époque où le nationalisme juif était exacerbé, Jésus ose dire « La liberté politique ne suffit pas, et je viens vous libérer d'une servitude plus terrible que toutes les oppressions. Et cette servitude-là, vous la portez en vous-même. » Jésus, pas plus que les apôtres, ne se sont élevés contre l'esclavage. Et pour nous, pourtant, l'esclavage, pour nous, à notre siècle, semble être la pire aliénation qui soit. C'est que le vrai dominateur qui régnait sur eux, comme sur tout homme, et qui règne encore, est d'une autre nature. C'est Satan qui règne sur les hommes par l'intermédiaire du péché. Et c'est l'homme lui-même qui s'est livré à Satan. C'est gratuitement que vous avez été vendu et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Au risque de décevoir ceux qui attendaient de lui toute autre chose, Jésus développe alors sa conception de liberté. Pour lui, ce qui libère, c'est la vérité. Et quand Jésus parle de vérité, il ne se réfère pas à une philosophie, ni même à une doctrine purement intellectuelle. La vérité, c'est ce qu'il vient de dire au monde de la part du Père. La vérité, en définitive, c'est lui-même. C'est pourquoi il peut ajouter, « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » J'ai l'impression que ça avance tout seul, ce truc. Le chemin qui mène à la liberté, Jésus l'indique avec une logique saisissante. Pour devenir libre, il faut connaître la vérité, adhérer à la vérité. Et pour adhérer à la vérité, il faut devenir vraiment son disciple. Et pour être vraiment son disciple, il faut demeurer dans sa parole. Il y a donc un lien direct entre la parole de Jésus et la liberté du chrétien, la vraie liberté, la liberté définitive, celle qui change la vie et qui traversera la mort. Le chrétien qui accueille la parole du Christ est un croyant qui commence à devenir libre, parce que la parole de Jésus va démasquer son péché, lui révéler ses propres chaînes, ces chaînes que Dieu veut rompre. Au point de départ se trouve donc l'écoute de la parole et au bout de la vérité, on rejoint une authentique vie de fils de Dieu. La liberté, selon Jésus, c'est une manière d'être fils. En somme, seul Jésus est pleinement libre parce que seul il est pleinement fils. Pour décrire sa propre liberté, Jésus nous parle de l'aisance joyeuse d'un fils dans la maison du Père, une maison qu'il habite pour l'éternité, depuis l'éternité aussi. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils, lui, y demeure toujours. Pour nous, il me semble que l'aisance filiale vient progressivement comme une grâce, à la mesure même de notre rejet du péché et des cadeaux incessants que Dieu nous fait sans mesure. En effet, qu'est-ce qui nous empêche de nous sentir chez nous près du Père? Sinon le péché qui nous donne des réflexes d'esclaves, qui entretient en nous des peurs d'esclaves, des rancœurs d'esclaves, des désespoirs d'esclaves. Christ est venu nous libérer de tout ce qui nous tient esclaves. Mais est-ce que nous nous laissons vraiment libérer? Libérer de la culpabilité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Libéré de la loi comme moyen d'être justifié, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Libéré du mal, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Libéré de nous-mêmes, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. Et puis libéré du monde et de Satan, c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Et puis Jacques dit, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Alors une fois que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous retrouvons la liberté, la faculté d'agir selon notre volonté sans être entravés par le pouvoir de Satan. Nous ne sommes pas contraints de faire le bien, mais nous avons le choix de le faire. Quand ce choix nous semble trop difficile, Dieu nous donne son esprit comme aide et soutien. Mais notre liberté demeure, et avec la liberté, la responsabilité. La mission de Dieu de Jésus sur la terre, qu'il poursuit par son esprit, c'est d'être une parole qui libère, une parole qui met debout celui qui l'accueille, qui le met en route vers une liberté de fils. Et toute proportion gardée, avec le concours et la force du même esprit, la mission qui nous est confiée auprès de ceux qui nous entourent n'est-elle pas d'apporter la parole qui libère, d'être pour eux un relais vers la liberté? En témoignant parmi eux de Jésus, vérité, nous les amènons devant le chemin de la liberté, qu'il leur faudra vivre à la fois comme une action de leur part et comme une grâce, car il s'agira pour eux à la fois de s'ouvrir à l'écoute de la parole qui libère, à l'écoute de Jésus, Fils de Dieu, et de faire le choix de la libération. Et ce sont là, pour les hommes, deux étapes indissociables, comme un point de départ et un point d'arrivée. Deux étapes dissociables, vraiment dissociables, mais deux nécessités conjointes, se libérer et se laisser libérer. Comme déjà le Seigneur l'enseignait dans l'Ancien Testament, on lit dans Ézéchiel 18, verset 31, « Faites-vous un cœur nouveau ». Et au chapitre 36, ce même Ézéchiel nous dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». On peut dire que ce choix d'accepter la vérité est notre seule œuvre méritoire, si on peut dire méritoire. qu'ainsi le sacrifice de Jésus est une pure grâce, nous donne le salut par pure grâce de Dieu. Dieu ne nous sauve pas à l'insu de notre plein gré. Il frappe à la porte, il ne la défonce pas. Notre seul mérite est d'ouvrir la porte. Dieu nous offre la liberté. Si nous l'acceptons, et c'est notre part, il nous libère. Il nous libère vraiment. Il ne fait pas de nous des automates. Nous sommes libres de le suivre ou de ne pas le suivre, de prendre le chemin étroit ou d'emprunter des chemins de traverse au risque de nous égarer. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Sommes-nous vraiment libérés de tout ? Quelquefois, est-ce que nous ne nous laissons pas remettre sous le joug de la servitude ? Jacques nous dit : d'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Pourquoi donc, si je suis, si tu es vraiment libre, tant de luttes dans nos vies, tant de convoitises dans nos cœurs, tant d'agitation et de fatigue pour garder la victoire sur le péché qui nous fait une guerre acharnée. Certes, l'ennemi nous attaque. Il l'a fait avec notre maître. Satan savait que Jésus désirait retrouver la gloire avec le Père. C'est pourquoi il lui a offert la gloire du monde. Mais elle n'a pas trouvé de place dans le cœur de notre Seigneur. Il savait aussi que Jésus était affamé. Il lui a offert le pain qui satisfait la chair. Mais ce pain-là, il n'a pas trouvé place dans l'appétit de notre Seigneur. Il savait aussi que notre Sauveur avait une confiance absolue en son Père. Et il lui a offert d'en faire un usage personnel. Cette proposition n'a pas trouvé de place dans la vie de notre Seigneur. L'ennemi a joué une partie de poker menteur avec Jésus, comme il le fait toujours. Mais Jésus n'a pas joué longtemps. Trois cartes, c'était fini. Satan le quitta. Tout aurait été si différent si Satan avait trouvé en Jésus une intention quelconque de satisfaire ses désirs ou même ses besoins. Il serait resté et la partie aurait duré longtemps. Et ta partie, la tienne, depuis quand la joues-tu ? N'essayons pas de jouer au plus malin avec Satan. N'essayons pas de résister et de combattre par nous-mêmes. Nous ne sommes pas de taille. Notre seul espoir face à Satan et au péché, c'est Christ qui les a affrontés et les a vaincus pour nous. Le péché n'aura point de pouvoir sur nous puisque nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est Paul qui dit ça aux Romains. La liberté nous est offerte, la saisissons-nous. C'est une œuvre de la grâce de Dieu, un miracle profond, mais c'est à cela que Jésus nous appelle. Rien de moins. Et je vous laisse. C'est bizarre ça. Voilà. Galates 5, verset 13. C'est à la liberté que vous avez été appelés. Jean 8, 36. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. 2 Corinthiens 3, 17. Le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Puis enfin Romains 8, 2, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, on peut rendre grâce à Dieu qui nous a rendu cette liberté. Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen.
Merci Christian pour ce rappel de la liberté en Jésus-Christ. Et je vais vous inviter à chanter.